Donc il fallait, quoi qu'il arrive, toujours creuser un trou. Parce que, en fait, si jamais tu tombes sur une merde, limite, ils mettent les doigts dedans. Enfin, je te laisse deviner comment ils devinent de quand est-ce qu'elle a été posée, tu vois. Mais en fait, ils repèrent, tu vois, la fraîcheur.
Il y a quelques semaines, je me retrouvais au One Woman Show d'Audrey Baldassare, avec qui j'ai beaucoup partagé la scène du théâtre Trévise. Et ce soir-là, j'ai vu une salle pleurer de rire face à une anecdote peu commune. Alors, j'ai voulu immortaliser celle-ci dans mon podcast « Les Dramalouses », celui que vous écoutez en ce moment, qui dédramatise des moments très, très, voire très, très, très gênants. Si on m'avait dit que j'allais faire le premier épisode de « Des Dramalouses » sur le sujet du caca, et si on m'avait dit que l'épisode allait durer 30 minutes, clairement, je me serais posé des questions sur mes talents journalistiques. Mais là, c'est pas pareil, parce que c'est Audrey. Et je vous le dis, on commence fort. Le temps passe vite avec cette fille solaire, pleine de joie, pleine de conneries surtout. Et là, en l'occurrence, pleine de caca, dans cet épisode où elle décide d'intégrer l'armée en plein confinement. Je n'en dis pas plus avant de vous couper l'envie. Je suis Edwina Girard et vous écoutez le podcast des Dramalouses avec mon invitée et amie Audrey Baldassare.
Audrey, tout le monde est venu te voir aujourd'hui. On est vraiment des gamines. Putain, on a mis 2 heures pour en arriver là. Je suis trop fière de nous. Moi, je pense que Edwina, c'est vraiment, c'est la garantie que tu vas réussir dans la vie et que ton podcast aura du succès parce que vous auriez dû voir avec quel acharnement. Elle a tout essayé. Tout ça parce qu'il manquait une carte SD finalement. On aurait plus vite fait d'aller en acheter une. Sauf qu'il est minuit 22.
Mais clairement, je suis sûre que Deliveroo, ils vont des cartes SD.
C'est sûr.
Ils font tout maintenant.
Ah putain.
Donc Audrey, faut que tu nous racontes dans quel contexte tu as eu la pire honte de ta vie.
Je vais raconter, ouais. Déjà, le contexte est déjà un peu honteux, finalement. Il faut savoir que je me suis engagée dans l'armée. Donc...
Là.
Ben,
confinement.
C'était, tu sais que c'était, on est le 9 mai, maintenant on est le 10. Et ben, jour pour jour, je terminais la formation militaire il y a un an, pile poil. Cette formation militaire était très surprenante. Et en fait, moi, je m'attendais à prendre la misère. Enfin, je suis quand même quelqu'un qui est pas très dans les... Pas, qui rentre pas trop dans le cadre et tout. Déjà parce que je suis humoriste, donc on se foutait de ma gueule tout le temps. Vraiment. Je pense que tu peux pas être humoriste et militaire à la base, mais bon. Parce que quand t'es humoriste, le principe, c'est que tu dois toujours faire des blagues et toujours l'ouvrir. Et là-bas, le principe, c'est que tu dois fermer
ta gueule.
Voilà, tout le temps. Il y a deux options. C'est tu la boucles et tu la fermes. Donc du coup, j'avais un petit peu de mal à faire ce qu'on me demandait. Mais j'ai fini par y arriver. Donc je passais plutôt un bon moment finalement. Et les militaires étaient vraiment sympas. À part qu'ils me disaient tout le temps ferme ta gueule.
Gueule Baldassare, ferme ta gueule même. Mais c'était combien de temps ?
C'était 2 semaines. Donc 15 jours, tu te dis, bon, ça va. Mais déjà 15 jours en treillis, avec que des gens en treillis, c'est quelque chose, tu vois. Mais rapidement, vu que je suis comédienne, tu vois, je vois ça comme un rôle et tout, donc je rentre quand même dans la peau du personnage et je m'y crois un peu, tu vois. En plus, tu vois, j'ai des biceps, tout ça, je me la raconte un peu, je me dis, ils veulent me détruire, ils n'y arriveront jamais. Je suis solide, tu sais, vraiment dans ma tête, je me dis, moi j'ai du mental, qu'est-ce qu'ils vont faire, tu sais, j'arrive à monter sur scène seule avec un micro, c'est sûr, là-bas, il peut rien m'arriver, tu vois. Et puis, ça se passait un peu comme ça, vraiment, je me sentais forte, psychologiquement, physiquement, mais le truc, c'est que on te met quand même à l'épreuve à tous les niveaux, même moralement. Pour dormir, on te laisse pas trop manger, pas le temps d'aller aux toilettes, tout ça.
C'est volontaire tout ça, ils font
c'est
exprès,
volontaire.
C'est, tout est calculé.
Oui, c'est que en fait, vraiment, on teste ta rusticité. Tu vois, il faut que tu sois capable de tout endurer et que même dans la fatigue la plus intense, vraiment, quand on te, tu sais, quand on te réduit en poussière, tu dois quand même être là.
Super.
Grave, c'était vraiment ça, quoi. Donc en fait, ils testent ta résistance en permanence, donc voilà, tu dois rien lâcher. Sauf que rapidement, moi, il y a un truc sur lequel je sens que je risque d'être fragile, c'est le caca. Parce que vraiment, déjà, bon, c'est très mixte et très non-genré l'armée, mais là, il y a pas de chiottes normaux, tu vois. Il y a des demi-murs, tu peux voir les pieds des gens.
Ça, on voit les pieds et la tête.
Et si tu te mets debout, comme ça, un peu sur la pointe des pieds, tu peux voir la personne qui chie à côté de toi. Donc déjà, moi, j'essaie de me faire des petits
rêves. Les toilettes, c'est pas des trucs turcs.
Non, heureusement, t'as pas de cuvette. C'est vraiment le, tu sais, t'as juste la porcelaine.
Putain.
Donc déjà, tu fais des squats. Donc, il n'y a pas trop moyen de se détendre sur le trône, tu vois. Puis, tu n'as pas le temps. Et surtout, vraiment, il n'y a que deux chiottes. On est 17. Et puis, en permanence, t'as des mecs qui se lâchent, genre... T'entends des sons et tout. Tu peux pas. Enfin, vraiment, c'était dur. Et donc, et en plus, moi, j'ai vraiment une passion pour ça. Tu vois, le caca, c'est... Je sais que tu connais.
Ouais,
c'est notre
aussi.
Vie, tu vois.
On,
voilà.
On a cette même facilité.
On a cette facilité dans le transit. Et donc c'est important, tu vois. C'est-à-dire que moi, si vraiment je suis en confiance dans un lieu, je peux faire caca une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir. Enfin, tu vois, j'ai un super transit, quoi. Et là, je me dis, bon, de toute évidence, je vais pas pouvoir... il va falloir changer les habitudes. Sauf que... au bout de 4 jours, j'ai toujours pas posé une pêche. Donc je suis un peu inquiète. Parce que je me dis, j'ai déjà 12 cacas de retard sur ma moyenne habituelle. 12 cacas, c'est beaucoup, tu vois. Et je me demande un peu, je me dis jusqu'où je peux les stocker. Est-ce qu'à un moment donné, ça déborde? Parce que je crois que ça. Enfin, franchement, aussi loin que je remonte, je crois que j'ai jamais vraiment été constipée. Et là, j'ai une inquiétude parce que. Parce que vraiment, je pousse et il n'y a rien qui se passe.
Et t'as mal au ventre et tout.
Ben ouais, tu te sens lourd quand même, quoi. Tu vois, déjà qu'on me dit « ferme ta gueule » et que je suis lourde.
Mais t'es pas des sacs à dos avec des cailloux dedans?
Si, en plus, bien sûr que déjà, on est chargé, tu vois. Déjà, on est chargé sur le dos.
Et 12 kilos dans le pied, 12 kilos dans le dos.
Ah ouais, c'est clair. Donc du coup, voilà, j'étais... je commençais à me sentir un peu fatiguée en plus, parce que mine de rien, ça tapait sur mon, tu vois, sur mon psychique, quoi. Et donc, je me dis, je vais pas attendre que ça devienne dangereux, parce qu'en plus, moi, j'ai des copines infirmières qui sortent des trucs, des fois, de l'anus des vieux. C'est des cailloux. Oh. Non, mais ça peut être, tu vois, très rapidement.
Ah, tu devais flipper que ça.
Mais j'avais hyper peur, bah ouais, d'avoir une occlusion et tout ça. Puis alors là, pour le coup, non, c'est quand même la honte quand t'es avec des gens comme ça, en pleine nature, en train de ramper dans la forêt, que vraiment, il faut sortir. Non, enfin, bref. Donc, du coup, je me dis, je vais à l'infirmerie, c'est préférable d'anticiper, de prendre un laxatif, tu vois. Comme ça, au moins, c'est sûr, ça se fluidifie. En plus, il faut savoir un truc, c'est qu'à l'armée, ce qu'on te donne à manger, c'est volontairement un truc qui va solidifier ta merde. Je sais pas ce que c'est l'inverse de...
Ouais, c'est...
J'allais dire diurétique, je sais plus quoi.
Diurétique,
de laxatif.
C'est pareil que laxatif.
L'inverse de laxatif, quoi. Donc, les rations qu'on nous donne à manger, qui sont assez atroces, elles sont là... pour faire durcir tes selles. Donc vraiment, si je prends un laxatif, ça va juste équilibrer et redevenir normal, peut-être. Enfin, c'est ce que je crois, en tout cas. Donc du coup, voilà, je file à l'infirmerie. Sauf que déjà, il faut savoir qu'à l'armée, tu prends pas tes aises comme ça et tu vas pas à l'infirmerie quand tu le décides. Déjà, voilà, tu dois demander à un gradé de... comme en 5e B, délégué. Non, mais c'est ça, tu dois quand même demander à un responsable et surtout, tu dois expliquer pourquoi tu vas à l'armée. Pourquoi tu vas à l'infirmerie.
Tu leur as dit?
Ben, j'ai dû faire un courrier presque en expliquant au colonel que j'avais un problème de côlon. C'était chaud. Donc déjà, je perds une partie de ma fierté, tu vois, qui se suicide. Si jamais un jour elle écoute ce podcast, la capitaine qui est médecin à l'armée, elle est
belle gosse.
Oh là là, elle est incroyable. Elle est incroyable et déjà quand j'ai fait la visite médicale, je me suis un peu dit coucou. Ouais, grave. Et je vois qu'en plus, tout le monde essaye un peu de là, tu vois. Et elle est hyper stricte, enfin, tu vois. C'est une femme capitaine dans l'armée, donc elle est obligée d'être rigide et tout ça. Et moi, je vois que j'arrive à la faire rire et tout. Mais là, sûr que ça va être plié. Si je suis arrivée en lui disant, j'arrive pas à faire caca. C'est foutu. Enfin, bref. Donc déjà, voilà, je me retrouve un peu fragile en me disant, bon, bah, c'est plié avec cette meuf. Et je bois mon petit laxatif, sauf que il sert à rien. Vraiment, comme moi dans l'armée. Et donc, du coup, j'attends un jour, deux jours, il se passe toujours rien. Là, je commence vraiment à m'inquiéter parce que ça fait presque une semaine. Et une semaine, des fois, ça peut être un motif pour aller à l'hôpital, tu vois. Je sais
surtout
pas.
Quand dans notre corps, il a l'habitude de faire tout le temps.
C'est ça, tu connais les trois fois par jour. Là, on est à 6 jours, 18 caca. Donc là, on commence à être sur une grosse quantité. Et c'est que surtout, à ce moment-là, jusqu'à maintenant, on est à peu près encore... ils sont encore un peu gentils avec nous. Les 6 premiers jours, on commence à manier des armes. Mais on est toujours au régiment. Donc on est sur le terrain, mais tranquille. Et à partir du 7e jour, on nous annonce que là, on va aller dormir dehors. Et qu'on n'aura plus accès ni aux toilettes, ni à un lit, ni à une douche. Et là, vraiment, je panique parce
pendant une nuit, ça.
Alors, pendant 2 nuits, et surtout, après, on sera sur le terrain à bouffer des rations et que des trucs bizarres. Sinon, il y a une cantine, quand même, où tu peux manger des trucs un peu normaux. Là, vraiment, on nous annonce le 7e jour que, déjà, on part en bivouac. Moi, mon ventre, il est plein de... C'est chaud, il y a une autre vie à l'intérieur, tu vois. Il est en train de vivre un truc indépendamment de moi. Et donc, ce soir-là, on part en bivouac. Mais tu sais, un bivouac... un bivouac vénère, quoi. Un bivouac où, déjà, ce que je te racontais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à peine on est arrivé, on nous a fait un spectacle immersif. Enfin, moi, j'ai vécu ça comme ça, mais on nous a quand même pris en otage. Enfin, voilà, en fait, on essaie de te mettre à l'épreuve tout le temps. Donc, bon, si en plus, pendant qu'on essaie de te prendre en otage et de te faire croire qu'il y a des terroristes qui vont probablement te, tu vois, t'abattre dans une grange en pleine forêt, et que toi, pendant ce temps-là, tu fais... Excusez-moi, j'ai lâché vraiment...
C'est voulais juste détendre l'atmosphère.
Donc oui, voilà, il y a quand même... On va vivre... Je sais que dans ce bivouac, on va vivre beaucoup de choses, qu'on va pas dormir de la nuit, surtout qu'il va falloir qu'on monte la garde, parce qu'on nous annonce que le camp adverse, qui sont plus gradés que nous et tout, ils vont nous attaquer pendant la nuit... Et que donc, toutes les deux heures, il y a un binôme de garde qui va surveiller nos véhicules et tout ça, tu vois. Et évidemment, bon, moi, je suis censée monter la garde vers 3 heures du matin, donc j'attends un peu que le camp se couche, tu vois, en tout cas mon équipe. Et je me dis, c'est maintenant ou jamais, je pars.
Tu sentais que ça pouvait venir, là?
Ah là, oui, en fait, ça, vraiment, c'est le moment où carrément...
La panique, c'est...
C'est la nuit, on
ça, est... C'est horrible, ce moment.
Mais ouais, parce qu'en plus, on est dans la forêt, donc déjà qu'à la base, on n'a que des toilettes en porcelaine avec des demi-murs et que j'y arrive pas...
Non, mais c'était où?
Là, le lieu, la position géographique, tu veux dire?
Ouais.
J'ai pas le droit de le dire. Non, je plaisante. Elle est con. Dans le Var, au-dessus de ça s'appelle, enfin c'est au-dessus de Draguignan.
Il y a des animaux.
Ça s'appelle Canjuers, bien sûr. Ah si, c'est à côté du Verdon, c'est à 1000 mètres d'altitude. T'es vraiment dans la forêt, quoi. Donc déjà il y a des. Alors en plus ce jour-là, ça c'est une anecdote à part.
Faire manger le cul par une marmotte, quoi.
Mais oui, il y a un mec dans le camp de Canjuers, donc là où j'ai intégré l'armée de terre. Ça me fait tellement rire de dire cette phrase. Ce camp, il est immense, genre il fait 40 kilomètres. C'est un truc. Il y a une ferme à l'intérieur. Il y a un mec qui a carrément des vaches, un troupeau. Enfin tu vois, et juste. En gros, t'as des véhicules militaires qui circulent, mais en fonction, ils vont se placer à des endroits, ils vont faire des tests, ils lancent des obus, ils tirent. Tu vois, t'as des stands de tir, mais c'est immense, tu vois. Et c'est vraiment perdu dans la montagne. Et déjà, ce jour-là, pendant qu'on faisait une mise en situation, t'as un des gradés d'un autre camp qui est venu nous dire qu'il y avait un taureau qui était en excès de testostérone, qui venait de s'échapper, en fait, du troupeau, et qui les avait chargés. Et qu'il fallait faire hyper gaffe, parce que si jamais on voyait un taureau tout seul dans un coin, qu'il fallait surtout pas s'approcher de lui, parce qu'il était vénère. Et en fait, apparemment, il avait quasi empalé une meuf, une militaire, et elle était partie aux urgences. Et donc là, ils étaient en recherche du taureau avec un veto pour le sécher, en fait. Ils avaient la carabine avec la piqûre et tout, pour l'endormir, parce que ouais, il avait pété les plombs. Donc déjà, tu vois, enfin...
Ambiance.
Grosse ambiance, il y a des patous, tu sais, ces gros chiens qui surveillent les troupeaux. Donc quand même, on est vraiment... Enfin, tu vois, on est dans la pampa.
T'es chez toi, dans la ville de la montagne.
C'est ça. C'est-à-dire que moi, je connais ça. Mais bon, en général, je fais pas caca au milieu de ça. Et donc là, voilà, il est genre minuit. Il y a tout le monde qui commence à s'endormir, à part le binôme de garde que j'entends marcher, tu vois. Donc j'entends des petits pas. Et je sens que, genre, c'est maintenant ou jamais, il y a mon ventre qui sort et tout. Putain, en même temps, ça fait 7 jours, c'est là, les gens dorment, il faut que je m'esquive du camp. Donc je sors discrètement, t'as jamais le droit de lâcher ton fusil, en plus. Je pars comme ça, on n'a pas le droit d'allumer, on a des lampes frontales, on n'a pas le droit de les allumer, parce que sinon tu peux te faire repérer, voilà, exactement. Faut rester vraiment, tout ça, bien évidemment, avec le visage maquillé en kaki noir.
Tes photos sont magnifiques.
Avec ma tête comme ça, tu sais, je sors. Et donc, quand même, tu vois, je vais m'éloigner. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, personne ne dort. Et t'as le sergent, donc c'est un de nos chefs, qui m'attrape et qui me tend une pelle. Donc je pense que clairement, il m'a vu partir avec le cul serré comme ça en train de marcher. Le mec, il a deviné ce que j'allais faire à ma démarche. C'est ça. Et donc là, il me chope et il me dit « Baldassare, tu te souviens du protocole ?» Et il me donne une pelle. C'est-à-dire qu'en plus, il va falloir respecter un protocole. Et effectivement, dans les cours magistraux qu'on a eus, ils nous ont expliqué que le caca, c'est souvent ce qui te fait démasquer, en fait. C'est-à-dire que les gens qui étaient embusqués, les militaires qui étaient embusqués, ils se faisaient repérer à cause de leurs excréments. Donc il fallait, quoi qu'il arrive, toujours creuser un trou. Parce qu'en fait, si jamais tu tombes sur une merde, limite, ils mettent les doigts dedans. Enfin, je te laisse deviner comment ils devinent de quand est-ce qu'elle a été posée, tu vois. Mais en fait, ils repèrent, tu vois, la fraîcheur.
C'est quoi le protocole caca?
Eh ben, le protocole du caca, c'est que déjà, t'es obligé d'aller à 200 mètres minimum du camp. Donc, tu peux pas rester là dans la zone. Donc, faut partir loin, sans lumière, dans la forêt, tu vois, au milieu des taureaux fous et des loups.
Mais tu vois rien.
Tu vois rien, vraiment. Il y avait un peu la lune, vite fait, mais bon. Et en plus, tu dois creuser un trou. Donc, c'est vraiment pathétique, moi, quand il m'a donné la pelle. J'ai su que j'allais creuser un trou psychologiquement, déjà, que j'allais m'enterrer, en fait. Putain. Et donc, et après, tu dois enterrer ton caca. Waouh, c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, même si je suis humoriste, je te jure, j'ai envie de pleurer. J'ai même pas la force de faire une blague. J'ai juste tellement envie d'y être.
T'es en train d'avoir un peu de recul avant de rire.
C'est clair. Depuis une semaine, tu vois. Putain, il me donne l'appel et il me dit « pars, loin, et ne reviens jamais ». C'est le seul moment où j'ai fait une blague parce qu'il m'a vraiment dit ça. Et j'ai dit « ok, Mufasa, je pars ».
Tu lui as répondu.
J'ai vraiment dit ça.
Tu lui as vraiment répondu, je pensais pas.
Bien sûr, mais évidemment.
Mais moi, j'avais dit « ferme ta gueule, Balthazar ».
Non, parce qu'à ce moment-là, on avait déjà tissé des liens et qu'il commençait à bien m'aimer. En vrai, okay, Sergent Legrand, je te ferai écouter ce podcast. Et donc, du coup, je pars avec ma pelle. Vraiment là, comment c'est possible? Je suis comme ça. Comment je vais faire déjà pour creuser un trou? Enfin, j'ai jamais chié dans des circonstances pareilles. Et donc, pendant que je réfléchis à tout ça et que j'erre un peu dans le noir, il y a une main qui m'attrape par derrière. En fait, c'est le binôme de garde qui est en train de faire les rondes pour surveiller. Et c'est une meuf que je connais un peu, mon binôme en l'occurrence, mais bon. Et elle m'attrape comme ça et elle me dit... ça aussi, c'est vrai, putain, c'est hyper drôle. Elle me dit « 21 !» Sauf que 21, c'est le nombre de caca de retard que j'ai, moi, dans mon histoire. Et sur le moment, j'ai vraiment ce calcul en tête. Sauf que nous, on a un code pour pas se faire, tu vois, pour pas se confondre avec l'ennemi. Et pour savoir, vu qu'on est dans le noir, pour savoir quand on croise quelqu'un, s'il est dans la même équipe, on doit faire un complément en 30. Donc, quand elle m'a dit 21, j'étais censée répondre 9. Et en fait, j'ai dit, mais comment tu sais?
Mais non, j'en peux, c'est pas vrai.
C'est presque pas romancé, je te jure. Bah, y a tous les témoins, en plus de cette histoire, parce que là, il y avait des gens. Et donc, du coup, cette meuf, je lui balance, je lui dis, mais c'est moi, laisse-moi partir, il faut vraiment que je chie.
En plus, c'est moi qui...
Elle était vraiment au courant, parce que quand on était encore au régiment, on dormait dans la même chambre, et toutes les nuits, elle m'envoyait de la force, elle me disait, allez, bon courage, parce qu'elle savait que je partais la nuit, c'était le seul moment où je pouvais essayer, tu vois. Donc là, elle sait ce que je vais faire, et du coup, je me taille. Et sauf que le truc, c'est qu'elle est en parano totale, parce que c'est vrai que ça fait très peur quand même, d'être dans la forêt comme ça.
Et tu sais qu'on va t'attaquer.
Ben, en plus, voilà, c'est ça, t'es toute seule. Enfin, là, elles sont deux, mais bon, en plus, elle était avec une fille qui sert à rien. Et donc, du coup, t'es vraiment alerte, vu que t'es en train de monter la garde. T'es surtout le moindre petit crissement de feuilles, le moindre truc. Et là, elle me transmet son angoisse, elle me fait une parano. Et elle me dit, meuf, il faut pas que tu restes là. On est en train de se faire encercler, c'est sûr. On entend que ça bouge là. Ils sont partout autour de nous.
L'ennemi. Oh là là. Moi, j'ai condition parfaite pour aller poser une pêche.
Super, pour, ouais, voilà. Nickel. Pour un trou. Je sais que je vais arriver à creuser mon trou. Et en plus, on sait qu'on va se faire attaquer, mais là, il est minuit, et je me dis, non, ils vont pas nous attaquer au début de la nuit, ces bâtards, ils vont attendre qu'on dorme. C'est sûr, elle se trompe, je pars. Et en fait, au moment où je me retrouve assez loin du camp, et où j'essaye, tu vois, de... Vraiment, j'ai fait une méditation et tout, hein, meuf. C'était compliqué, hein, parce que déjà, j'ai posé des petits cailloux. Enfin, tu sais, j'ai essayé de me faire un petit trône, tu vois, quand même. Est-ce que je me suis dit...
Il fabriquait un trône en bois. Donc, j'ai taillé un peu un tronc d'arbre en forme de lunette de toilette.
J'ai poncé pour pas qu'il y ait trop d'écharpes.
Du coup, il était 5h du matin, effectivement.
Non, mais tu vois, parce que franchement, rester en squat comme ça, tu vois...
Impossible.
Non, c'est impossible. Vraiment, là, je veux pas donner trop de détails morbides, mais quand même, quand déjà, t'as pas les parois des murs sur les côtés pour pousser, tu vois. Là,
non, mais il fallait que j'ai un petit peu d'appui. Dans la vraie vie, tu pousses pas sur les parois des murs sur les côtés.
Quand t'es constipé, si, tout le monde fait ça, non? Voilà, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. T'as jamais fait ça? Quand tu t'es, quand t'as l'impression que t'as la petite veine là sur le front qui va péter.
Non, ouais, mais faut
tu pousses.
Faut avoir un truc pour mettre les pieds en l'air, mais pousser sur les côtés, ça sert à rien.
Eh ben, écoute, si jamais t'as pas le petit tabouret, parce que ça, d'ailleurs, petit conseil chez vous, mettez la marche hein,
c'est
sous
ça.
Les pieds.
Mais moi, je découvre depuis peu.
C'est trop bien ça. ça, oui, c'est vraiment pour un super transit, pensez à ce petit escabeau. Et là, bon, il n'y a pas d'escabeau. Donc je me dis, bon, on va au minimum mettre surélevé, mettre des cailloux. Et donc, du coup, je me retrouve quand même pas trop mal assise, mais j'ai mon FAMAS, j'ai mon fusil d'assaut sur le dos, ma pelle dans la main, ma frontale éteinte. Et au moment où je sens que je commence à me détendre et où ma méditation fait effet, j'entends un truc qui rampe derrière moi. C'est-à-dire que dans le buisson derrière, ça bouge. Okay. Tout qui a fait demi-tour, déjà. Genre, je me suis retrouvée à faire « Oh non, putain !» En fait, à ce moment-là, j'étais tellement vulnérable, en boule comme ça, avec le vent, mes cheveux qui me touchent le visage, et le buisson derrière moi qui bouge. La première chose, la première réaction, c'est que je me suis vraiment énervée. J'ai jeté la pelle par terre, j'ai dit « Pas maintenant ! Là, j'ai envie de chier, putain !» J'ai crié ça en l'air. S'il faut, il n'y avait personne, tu vois. Mais j'étais tellement fragile psychologiquement, je ne pouvais pas m'en remettre, en fait, à ce moment-là, par pitié, qu'il ne soit pas en train de lancer l'assaut et de nous attaquer au moment où j'arrive.
Si c'était des vrais ennemis, tu aurais vu un craquage sortir ça aussi.
Meuf, si on était vraiment en guerre, à ce moment-là, t'as un commando à plat ventre derrière moi. Jamais de la vie, là, tant que je termine. Parce que moi, je me suis mise à pleurer. Tu sais, laissez-moi finir. Vraiment. Tu sais, je faisais trop de peine. Donc, je pense vraiment que s'il y avait quelqu'un, il a eu de l'empathie et il s'est dit, OK, je reste en stand-by. Mais là, vraiment... Ah non, mais c'est sûr, si c'était vraiment la guerre, on m'aurait retrouvée morte dans mon caca, comme ça, avec ma pelle à la main. Oh, mon Dieu, la honte, quoi. Mais ce moment-là, en fait, c'est vraiment le pire moment de solitude, parce qu'à la fois, j'ai peur, parce que je me dis, il y a peut-être, tu sais, déjà, quand tu fais caca avec la porte fermée et que t'as quelqu'un qui vient s'installer dans les toilettes à côté de toi, déjà, t'es
déjà
pas à l'aise.
Pas bien, c'est vrai.
Tu dis, putain, je vais faire un prout, c'est sûr, il va y avoir un truc. Tu tousses un peu. Mais si t'es dans la forêt, dans le noir.
Il y a pas de paroi, il y a le noir, il y a la guerre, il y a machin. Y a
ça rampe derrière moi en plus, donc à tout moment, t'as vraiment.
J'ai peur qu'il y ait des bêtes qui te trompent.
Ben en fait, c'est... ouais, grave. Et puis, en fait, à ce moment-là, je me dis juste, peut-être que t'es folle. J'essaye quand même de prendre du recul sur la situation. Elle me dit peut-être qu'il y a personne derrière toi. C'est juste que t'es tellement parano toi aussi là et que t'es tellement vulnérable que tu te fais un film. C'est ton imagination et c'est peut-être juste un sanglier qui est passé. Mais en même temps, je voulais pas trop me faire fister par Pumba, tu vois. j'avais vraiment l'image de. Bah, calme-toi, c'est peut-être juste un sanglier, mais en même temps, c'est hyper dangereux. S'il y a un sanglier derrière moi, j'ai hyper peur. Donc en fait, je me suis retrouvée. Posé sur mes petites pierres avec une pelle et un fusil en train de taper dans les mains pour essayer d'éloigner éventuellement un troupeau de marcassins avec leur maman qui se sentirait en danger. Donc je savais vraiment pas, en fait à ce moment-là, je savais vraiment pas ce qui était en train de se passer, ce qui était en train de m'arriver, mais je me suis juste dit ce truc-là, j'espère que je vais réussir à le raconter un jour. En fait, merci de m'avoir donné cette chance parce que sinon j'ai tellement vécu ce truc solo que ça a aucun sens. Tu sais, c'est même pas assez la honte. Sinon, tu vois, je l'ai vécu tellement seul. Putain, c'était très violent psychologiquement. Et au final, il ne se passe rien. C'est-à-dire que j'ai perdu un bon petit 5 minutes à m'angoisser, à me remettre dans le bain et tout ça. Mais j'ai fini par réussir, tu vois. Donc quand même, non mais quand même, c'est beau, tu vois. Cette histoire est belle. J'ai quand même dû reboucher le trou.
Taille du cadavre.
Quand même, ah oui, parce que ça, je le dis, je me suis quand même renseignée sur la quantité de caca, parce que ça m'a pas semblé si exceptionnel, mais je me suis dit, si vraiment j'ai retenu à peu près 21 caca, du coup, puisqu'il y avait 7 jours, j'ai demandé sur Google.
J'ai demandé
à Google. Et apparemment, une crotte moyenne pèse à peu près 150 grammes. Et si tu multiplies par 21, ça fait 3,6 kg. Et ce qui m'a semblé quand même assez fou, c'est que 3,6 kg...
T'as accouché, quoi.
C'était mon poids à la naissance. Ouais.
Oh là là,
je me suis dit ça, je suis obligée de le mettre dans cette
boucle,
histoire.
Boucle.
Grave. Là, je me suis enterrée moi-même en tant que nourrisson. Donc voilà, j'ai rebouché ce trou et je suis rentrée au camp. Mais
c'était ta renaissance à l'armée.
Mais grave. En plus, vraiment, je suis repartie d'une légèreté. Genre,
ah bah tu m'étonnes.
Je suis flottée dans les bois, n'importe quoi. Mais je suis retournée au camp, mais... En fait, je me suis dit, là, tu viens de vivre le truc le plus fou de ta vie. Il peut rien t'arriver d'aussi flippant et honteux. Et quand je suis rentrée au camp, j'ai rampé pour me remettre dans mon duvet. Et même pas une minute après, il y a le binôme de surveillance qui a lancé l'alerte et qui a dit « Regroupement !» Donc, il fallait vraiment qu'on... C'était le code. Hein. Si jamais elle criait « Alerte rouge, regroupement au camion, machin », ça voulait dire qu'en fait, l'équipe adverse était en train de nous attaquer. Donc, entre le moment où j'ai... terminé ma petite affaire et le moment où je suis rentrée dans mon duvet, t'avais vraiment probablement le caporal du camp adverse qui était embusqué dans un buisson et qui attendait en fait pour donner le top pour attaquer notre camp. Donc il y avait vraiment un mec derrière moi à plat ventre en train de dire attendez les gars, on va pas attaquer tout de suite parce que là, elle est cul nue en train de taper dans ses mains. Donc en fait, le gars, je pense qu'il a vraiment eu de la peine. Si on était en temps de guerre, c'est sûr, je serais morte. Je serais morte dans mon caca, quoi.
Soit ils ont eu de la peine, soit ils étaient en fou rire à se pisser dans le froc à quatre devant ton huc.
Et alors oui, en plus, c'est ça la fin de l'histoire. C'est que ben, quand ils nous ont attaqués, nous, on avait carte blanche. En plus, c'est la fois où je me suis le mieux battue. Imagine bien, j'étais tellement... Hey, j'avais plus aucune encombre,
là, c'est clair.
Je touchais plus le sol. Et en fait, on a chopé le sergent qui m'avait donné l'appel. Nous avait dit, vraiment, vous avez carte blanche, si jamais vous en chopez un du camp adverse qui nous attaque, vous l'attrapez, vous le prenez en otage et vous nous le livrez. C'est vraiment, il déconne pas, tu vois. Et donc, il y a un mec, moi, que j'ai vu sauter de notre camion, je voyais rien, vraiment. On savait pas qui était l'ennemi, qui était, tu vois, qui était dans notre camp, c'était chaud. Mais là, lui, il a fait un truc Yamakasi, il a sauté du camion, je me suis dit... C'est sûr, c'est un ennemi, j'en ai un, je vais sauter dessus. Du coup, il y a tous les gens de mon camp qui m'ont sauté par-dessus et on a écrasé le mec. Et il s'avère qu'en fait, il s'est mis à gémir et tout. Et finalement,
on a failli le tuer. Ben ah, ouais. C'était pour de faux.
Excusez-nous. Non, mais on a vraiment, je crois qu'on lui a fait mal parce que moi, je l'ai entendu hurler. Et comme c'était moi qui étais en premier contact par-dessus lui dans la mêlée, tu vois, et que j'étais en train de me faire écraser par 230 kilos de deux mecs qui m'avaient sauté dessus, du coup, je leur ai dit attendez, parce que le gars, il disait il arrivait même plus à respirer, c'était chaud. Donc, du coup, je leur ai dit poussez-vous. Et il y a quelqu'un qui est arrivé avec une lumière et en fait, le mec, en le plaquant au sol, quand on lui est tombé dessus, on lui a écrasé le nez avec ses lunettes. Parce qu'en fait, dans l'équipe adverse, ils avaient tous des lunettes infrarouges. Donc, la personne qui était embusquée dans le buisson a passé genre 10 minutes avec la tête dans mon huc avec des lunettes infrarouges. C'est-à-dire que moi, j'étais dans le noir, mais pas lui. Donc, je pense vraiment... Non, c'est très violent. Heureusement, enfin, je pense que...
Tu penses qu'il y en avait qu'un? Ou tu penses qu'il pouvait être plusieurs ensemble?
Normalement...
Ou est-ce que la stratégie chez eux, c'est de se diviser?
Tu te répartis, tu vois, quand tu encercles, c'est un peu stratégique.
Donc, déjà, ils n'étaient pas à trois de se taper des barres.
C'est un mec... Il est lui un doigt dans son cul. Non, non, imagine, t'es... Non, non, je pense qu'il était seul. Après... Peut-être qu'il était, tu vois, peut-être qu'il était en connexion avec d'autres gens et que depuis, cette histoire a fait le tour du régiment. Sûrement d'ailleurs. Franchement, c'est pas possible, quoi. Oh mon Dieu, imagine. Non, mais donc, du coup, voilà, c'est heureusement que finalement j'avais du make-up et que, tu vois, personne sait qui j'étais, en fait. J'étais, tu vois, j'avais un chapeau, À moins que...
À moins que t'aies écrit ton nom comme un maillot de foot à l'arrière.
Ouais, sur mon huc. Imagine.
T'as des tatouages ou pas?
Putain. Non, bah non. Oh là là, heureusement, c'est vrai que sinon, t'imagines...
Mais oui, attends.
Putain. Non, mais donc, du coup...
Balazar
Ton cul. Ah, putain. Donc, voilà. Mais écoute, cette histoire, je m'en suis pas vantée, sauf auprès de ma binôme, parce qu'elle, vraiment, elle avait tellement suivi toute mon épopée. mais quand même, je me suis dit... Est-ce que c'est pas le truc le plus fou que t'aies vécu à l'armée? Voilà. Donc, depuis, je fais du dédrama grâce à ton podcast.
Ah non, mais c'est... Combien de temps après t'en as parlé à plus de gens?
Ah, j'en ai parlé direct, il fallait. Hein. Ouais. Enfin, j'en ai parlé direct.
T'es revenu, quoi.
Les militaires, je leur ai pas raconté. Et puis alors, en plus, après, il y en a eu encore des milliers... Enfin, il y aurait 1000 anecdotes à raconter de ce stage, de cette formation militaire. C'était n'importe quoi. Mais celle-là, enfin ça c'est le truc phare de ma formation, tu vois. Donc dès que je suis rentrée chez moi, j'ai raconté de suite à mes parents, à mon chien, tout le monde était au courant. Mais par contre, avant d'en faire un truc sur scène, j'ai mis du temps parce que j'aime bien les storytelling et je me disais ah, celui-là les gens ils vont
bien le raconter.
Ouais, et puis surtout je me disais les gens ils vont pas y croire. Il y a trop, enfin tu vois, même le truc.
À la fois sur scène, on se dit mais attends, c'est pas, on voit que tu revis tellement le truc. Parce que voilà, là, on est en podcast, mais quand il y a le visuel
et mimes,
tout, mais complètement dans le contexte et tout, on revit tellement le truc qu'on se dit quand même... Ouais, si. Si même les gens qui te connaissent pas se captaient que c'était...
Ouais.
Que c'était vrai, ouais.
En même temps, sinon, putain, pourquoi je raconterais un truc pareil, ouais. Mais non,
c'est bizarre d'aller dire aux gens, bah, vous savez, je suis allée faire l'armée... Enfin, je suis
ouais, ouais.
Trop bizarre. Devenir militaire il y a un an, si, ça.
Mais j'ai à peine romancé, vraiment, tout est vrai. Même le truc des chiffres, parce que dans ma tête, avec ma binôme, celle avec qui on dormait, vraiment, je comptais les cacas. C'est vraiment...
des séries.
21. Comment tu sais, putain ? Non, mais ça, c'est fou, quoi. C'est fou, le truc du code pour se repérer et tout.
Non, et t'as pas dit 3,6 quand t'es revenu.
Non, imagine. Non, mais putain, c'était... Ah ouais, non, c'était vraiment... En fait, on aurait vraiment dit dans un épisode de série de A à Z, quoi. C'était n'importe quoi, l'autre avec sa pelle et tout.
En tout cas, je te promets que tu vas avoir le monopole. Maintenant, j'interdirai toute personne qui veut raconter une anecdote sur le caca. J'aimerais que tu aies ce monopole.
Putain, je serais trop fière.
Voilà, que tu aies cet honneur.
Je suis trop fière.
La seule personne, parce qu'on trouvera pas mieux.
Ouais.
Jamais plus drôle en histoire de caca.
Oui, je suis trop fière de ça, putain. Je suis sûre que les histoires de caca sont drôles quand même. Moi, j'aimerais bien savoir si toi, t'en as une. Toi qui es passionnée par le caca.
Figure-toi qu'il y en a une que j'ai racontée à la télé dans une chaîne que personne ne regarde. Et après, j'ai beaucoup regretté.
Ah ouais ?
Ouais. Parce que
ça a bien passé. Encore.
C'était.
Je suis trop contente, putain, il y a des effets de fou.
Là, je me suis rappelé qu'on avait des boutons avec putain, des
c'est
trucs.
C'est clair.
Audrey, elle a voulu retourner le truc.
J'aimerais du bruit pour Audrey, s'il vous plaît. Merci.
Merci,
putain, donc tu vas pas nous raconter ton histoire de caca, quoi.
Hors antenne.
Ok, hors antenne, je veux cette histoire.
Prête.
Ok, hors antenne, je veux cette histoire, meuf. C'est sûr.
Merci Audrey.
Merci bébé.
À tout à l'heure.